midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver, ravi de vous présenter le docteur Loïc Etienne. Bonjour doc.
Bonjour Philippe.
Vous êtes médecin urgentiste depuis 4 décennies. Vous êtes l'un des pionniers de la e-médecine. En 1987, vous avez l'idée, après une nuit de permanence, d'un service Minitel sur la santé. Ça s'appelait 3615 Écran Santé.
Ça ne nous rajeunit pas.
Ah voilà, mais ça a commencé comme ça. Alors qu'à l'heure où on parle de l'intelligence artificielle, mais vous étiez les pionniers en fait de tout ça. Après, vous avez effectué une des premières téléconsultations. Bah, ça se passait comment?
Blabla. Les gens tapaient sur Minitel. Il disait, voilà, j'ai ça. La première question qu'on a eue en 1987, c'était « Je n'ai plus mes règles, se pourrait-il que je sois enceinte ?» Alors, débrouillez-vous avec ça.
Sur le 3615
Oui, sur le 3615, écran santé. Là, « Je n'ai plus mes règles, se pourrait-il que je sois enceinte ?» Alors, on s'est gratté la tête, on était 4 médecins autour de la bestiole, du Minitel, et puis on se demandait « Mais comment on va répondre à ça ?» Et c'est grâce à ça qu'on a pu finalement essayer de se dire « Il faut faire une encyclopédie avec des facts, qu'on appelle des frequency asked questions, qui permettent de répondre globalement à tout le monde sur les principaux sujets. » Et puis, en même temps, de mettre en place un petit système expert, un début système expert, qui était le premier qu'on ait fait. Et c'est ça qui nous a permis de comprendre la parole du patient. Et en fait, moi, ce qui m'a passionné dans ce travail qu'on a fait de 87 à 2000, et puis après sur Internet, sur docteurclic.com, c'est la parole du patient. Moi, j'ai été toujours passionné par ça, c'est-à-dire les mots, ce qu'ils veulent dire, ce qui se cache derrière les mots, et la valeur que l'on peut accorder à la parole du patient, et donc à notre propre compréhension. Parce qu'en fait, nous les médecins, nous avons nos propres biais et nous-mêmes, nous n'écoutons pas forcément complètement le patient. Et donc, il y a parfois une discordance entre les mots du patient, la compréhension du médecin. Moi, j'ai toujours été passionné par ça et c'est ce qu'on a mis dans notre système d'intelligence artificielle Medvir qui justement se base sur la parole du patient. On a 25 000 mots et expressions qui permettent de comprendre.
Parce que vous faites des raccourcis. Hein. Donc, il y a eu le 3615 écran santé. Après, vous avez eu donc docteurclic.com et après, vous avez eu Medvir.
Ça, c'est, tout à fait.
Voilà, dans les 40 ans, c'est ça qui s'est passé. Medvir, c'est une intelligence artificielle.
Alors, Medvir, c'est une intelligence artificielle, sachant que l'intelligence artificielle, comme le dit Luc Julia, ça n'existe pas. L'intelligence artificielle, elle ne comprend rien. La machine ne comprend rien. Par contre, la machine, bien qu'étant stupide, a l'avantage d'avoir une mémoire infinie, et surtout, en même temps, d'être capable de prioriser les choses. Du fait qu'elle a une mémoire extrêmement importante, le gros problème de l'IA, c'est d'arriver à faire en sorte qu'elle soit capable de poser les bonnes questions. Et quand vous regardez un médecin, un bon médecin, il va vous poser 5, 6, 7, 8 questions. Et dans ces 8 questions, il cherche quelque chose. Et si on essayait d'examiner son cerveau, on verrait pourquoi il pose cette question. Et donc, toutes les IA qu'on a faites dans Medvir, ça a été de comprendre ce qui se passe dans notre propre cerveau, de façon à pouvoir se dire, si je pense à un infarctus, je dois poser cette question et cette question. Et si je pense à l'appendicite, je dois poser cette question et cette question. Alors le problème, c'est que quand vous avez 450 diagnostics d'urgence, puisque nous les urgentistes, on est capable d'en faire que 450, pas plus, il faut savoir où vous allez. Et toute la problématique de l'IA, de cette IA, c'est de lui donner les règles et les poids de façon à ce qu'elle pose les questions qui vont aller le plus vite possible à la solution.
L'anamnèse artificielle.
L'anamnèse artificielle. Ouais. Voilà, plutôt que intelligence artificielle, moi je préfère effectivement, je préférerais le mot anamnèse artificielle ou.
Alors l'anamnèse, c'est les questions, les fameuses questions dont vous avez parlé, qui vous permettent d'arriver jusqu'au diagnostic. Mais c'est l'interrogatoire.
C'est l'interrogatoire, c'est-à-dire qu'au terme de cet interrogatoire, on aboutit à une anamnèse, qui veut dire donc je me souviens de ce qui s'est passé, mnémo, hein, le mot grec. Donc en fait, c'est un résumé de ce qui s'est dit au cours de la consultation, c'est-à-dire de l'interrogatoire par le médecin et des réponses qui ont été faites par le patient. Et ce résultat, c'est ça qui crée une anamnèse, et c'est grâce à ça que on peut faire un résumé et fabriquer surtout, ce qui est très intéressant, l'histoire de la maladie. maladie. Parce qu'en fait, quand vous faites une consultation au temps T0, bah, vous avez une image comme une diapositive. Et puis au temps T1, bah, vous avez une autre image. Et puis au temps T2, T3, etc. Surtout pour les maladies chroniques. Et si on arrive à juxtaposer ces images instantanées et qu'on les met dans la continuité, bah, qu'est-ce qu'on a ? On a un film. Et ce film, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de la maladie. C'est depuis le moment où on est jusqu'au moment où on meurt. Et c'est ça l'histoire de la maladie.
Bien, alors vous publiez Urgence Santé, est-ce grave ? Que faire ? Qui appeler ? Donc ce sont les trois questions auxquelles vous répondez et auxquelles les patients devraient essayer de répondre. Chez First, vous disiez tout à l'heure que vous pouviez, les urgentistes pouvaient faire jusqu'à 450 diagnostics. Mais en fait, ça fait de vous des super généralistes, parce que 450 diagnostics, c'est énorme déjà.
Alors, il y a 17 000 maladies. 17 000 maladies, donc vous voyez, enfin, dans la connaissance de la médecine. Parmi ça, il y a 7 000 maladies rares, donc vous voyez, il en reste 10 000. Et dans les 10 000 qui restent, un généraliste à peu près en connaît environ 800 à 1 millier. Il en a entendu parler au cours de ses études d'environ 2 000, mais ce qui lui en reste au cours de son exercice quotidien, c'est 300, 400 à peu près. Nous, les urgentistes, on est focalisé sur certaines maladies, mais on doit avoir une vision d'interniste. C'est ça qui m'a passionné pendant 40 ans. C'était à la fois de voir des choses en disant, bon, allez, c'est un infarctus, une péritonite, ou des morpions, une gastroentérite, puisque tout, dans l'urgence, tout n'est pas grave.
Hein. On va consulter pour les morpions.
Bien sûr, bien sûr. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit « Oh, j'ai des petites bêtes !» Et il ne savait pas ce que c'était. Je lui ai dit « Ben oui, ça s'appelle des morpions. »
Et il est venu consulter en urgence.
Ben oui, ça le grattait. Ça le grattait, et il était d'ailleurs, il devait être 2h du matin. Ah mais oui, mais vous savez, moi, au cours de ma vie d'urgentiste, j'ai eu des tas de trucs.
Tous les symptômes que vous avez rencontrés, vous les racontez dans votre livre. Notamment les objets dans les orifices.
Les cafards dans l'oreille, bien sûr.
Les
cafards. Mais oui, parce qu'un cafard, qu'est-ce qu'il fait un cafard ? Le cafard, il a peur de la lumière. Et il aime bien le chaud. Alors, quand vous êtes dans un appartement où malheureusement vous êtes envahi de cafards, et malheureusement il y a plein d'endroits où c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait le cafard ? Il sort pendant la nuit, et puis il vous monte dessus, il va dans un endroit chaud, dans votre oreille, il rentre dans votre oreille, et on était appelé assez souvent pour des personnes qui hurlaient parce qu'ils avaient une douleur terrifiante dans l'oreille, brutale, avec l'impression qu'il y avait quelque chose qui était à l'intérieur. Qui les grattait. Alors en fait, il fallait mettre l'otoscope à l'intérieur et ne pas allumer la lumière. Et alors, on attendait que le cafard grimpe dans l'otoscope. Hop, on l'emprisonnait et c'était fini. Ah non, mais c'était très amusant. Très amusant, sauf pour la personne qui, la pauvre, oui, a un cafard dans l'oreille. Mais ça ce sont ce qu'on appelle les histoires de chasse.
D'accord, voilà. Mais vous le saviez ou vous attendiez parce qu'il faut faire des hypothèses parfois.
Alors,
comment on en arrive à imaginer que quelqu'un peut avoir un cafard dans l'oreille quand on n'a pas déjà rencontré la situation ?
Alors, c'est une question. Vous savez, est-ce que nous sommes dans la médecine réelle ou dans la médecine virtuelle ? Quand on est dans la médecine virtuelle, c'est-à-dire en régulation, oui, en régulation médicale, quand vous avez un patient au téléphone, vous imaginez pas qu'il a un cafard dans l'oreille, parce que vous dites, bah, il a mal à l'oreille, donc il a peut-être une otite, il a peut-être ceci, il a peut-être cela. Donc vous posez des questions, on fait de la régulation, et le rôle du médecin régulateur, c'est ce qu'on a fait dans notre bouquin, c'est de mettre dans des questions qui permettent d'envisager des hypothèses, uniquement des hypothèses. Et quand le médecin réel arrive, il arrive, alors avec mon histoire du cafard, il arrive devant le patient et il se dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi. Et alors, vous voyez la personne qui se tient à l'oreille et qui dit, mais c'est insupportable, ça me démange, et puis c'est un bruit atroce. Bon, bah, vous dites, bah, vous êtes mis quelque chose dans l'oreille. Mais non, j'ai rien mis, c'est affreux. Et vous mettez l'otoscope et puis vous mettez le cafard, vous voyez le cafard, il est là, il remue. Et comme il a peur de la lumière, il essaye d'aller encore plus loin. Donc il ne faut pas allumer la lumière de l'otoscope. Ah mais c'est des histoires de chasse, ça. J'en ai plein, des histoires comme ça.
Est-ce que quelqu'un qui appellerait justement la régulation en disant qu'il avait mal à l'oreille serait orienté vers les urgences ou on lui dirait non, attendez demain d'aller chez le médecin ?
Alors,
est-ce que c'est un motif de consultation d'urgence ?
Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr, mais à partir du moment où vous avez une douleur, prenons une douleur dans l'oreille, et à partir du moment où vous avez des signes qui peuvent orienté vers quelque chose pouvant être grave. Ça ne veut pas dire que le diagnostic est grave, mais ça veut dire que l'état du patient est grave. Donc une douleur insupportable de l'oreille nécessite d'être vu par un médecin, c'est évident. Une douleur sourde, etc., qui n'est pas trop importante, ça peut attendre. Mais par contre, quand vous avez une douleur qui est violente ou pas violente, ou sourde, etc., mais qu'en plus vous avez de la fièvre, et qu'en plus la personne elle a vomi, et qu'en plus elle a mal à la tête, etc., vous dites, oh là là là, c'est peut-être une... Alors vous faites vos hypothèses diagnostiques, bien entendu, et vous dites, ça pourrait être une otite qui se complique par un syndrome méningé, etc., etc. Voilà, donc en fait, nous passons notre temps à envisager des hypothèses, et donc des hypothèses diagnostiques, mais sans en être certain. Et par contre, nous le confrontons au niveau de gravité, c'est-à-dire à l'état de la personne. En conjonction,
oui, mais,
en faisant la conjonction des deux, on envisage
la gravité.
Comment on
croise la gravité avec l'urgence? Parce que c'est pas vraiment la même chose. Vous pouvez avoir quelque chose de grave, mais pas d'urgent.
Exactement. Très bonne question. Vous avez très bien. Alors, un cancer du poumon, c'est grave, mais c'est pas urgent. Okay. Une rhinopharyngite, c'est pas grave, mais pour la maman, c'est urgent, parce que elle se dit que l'enfant, il a 42 fièvres, il a le nez qui coule, ça pourrait être une méningite, etc., etc. Donc vous avez l'urgence ressentie, l'urgence réelle. Mais de toute façon, c'est évident que le cancer du poumon ne nécessite absolument pas une intervention en urgence, puisque ce n'est pas une urgence, bien que ce soit grave. Donc il faut décorréler la gravité immédiate de la gravité potentiel.
Oui, parce que le but de votre livre, c'est un peu d'éviter aux gens d'aller courir aux urgences pour des raisons qui ne le nécessitent pas, en fait.
C'est exactement le sous-titre, en fait, de ce livre, c'est alerter quand c'est nécessaire et rassurer quand c'est possible. En fait, c'est ça. C'est-à-dire se dire, je vous donne un exemple très simple. J'ai 60 ans et puis brusquement j'ai ma main qui a laissé tomber le verre, voyez. Et puis ça va. Vous dites bon, mais c'est pas grave, j'étais maladroit. La seule chose, c'est que si vous avez en plus d'autres signes comme la personne a la bouche légèrement en travers, elle est un petit peu confuse, elle a un petit problème de mémoire, un petit problème d'équilibre, etc. Mais attendez, il faut pas attendre. C'est probablement un AVC, un accident vasculaire cérébral. On a 4 heures pour intervenir. Donc là, il faut alerter. Il ne s'agit pas de rassurer en disant bon, c'est pas grave, t'as été maladroit. Donc
oui,
tous
si,
les
si,
signes
oui,
là,
si t'as récupéré,
c'est à récupérer, ouais, ouais. C'est à faire tout de suite. Je vous prends un autre exemple. Et moi, le nombre de fois où ça nous est arrivé, je me souviens encore d'une anecdote comme ça. Une personne qui était persuadée qu'elle avait une gastro parce qu'elle venait d'Espagne et puis elle était barbouillée. Elle me dit, je suis barbouillée, j'ai eu une gastro, etc. Et puis en l'interrogeant, je me suis rendu compte que finalement, elle disait qu'elle avait des rots, des éructations, qu'elle rotait. Et elle me montre sa main à plat, en me disant, mais j'ai des rots, j'ai des rots.
Il y a une entrée rots, d'ailleurs, dans votre livre.
Il y a une entrée rots, mais oui,
il y a une entrée rots, oui. Donc, elle éructait.
Elle éructait, et puis je lui vois la main comme ça, je lui dis, mais attendez, je l'interroge, je lui fais un électrocardiogramme, c'était un infarctus qui était en train de traîner, alors qu'elle pensait que c'était une gastro. Donc, vous voyez, là, en l'occurrence, on est là pour alerter. Par contre, quand vous avez, je prends la même personne, hein, et elle vous décrit une douleur, mais elle vous la montre pas avec la main sur la poitrine, elle vous la montre en la désignant avec le doigt. Si elle vous la désigne avec le doigt, c'est plutôt rassurant. C'est de dire que ça doit être une névralgie intercostale, surtout si la douleur augmente en inspiration et qu'elle continue en expiration.
Mais pourquoi ça peut vous monter avec le doigt? Ça signifie quoi?
Parce que ça veut dire que si la douleur, elle est comme ça, c'est un signe qui est assez important pour un médecin, parce que ça lui permet de comprendre que la douleur, c'est plutôt une oppression, c'est plutôt quelque chose qui appuie. Alors que quand vous la désignez avec le doigt, ça appuie pas. Ça vous pique, ça vous gratte, donc c'est pas la même chose. Et donc, ce simple signe, la manière de désigner la douleur, c'est un signe qui nous permet, nous, les urgentistes, de nous rassurer, ou au contraire, de nous inquiéter. Donc, le rôle de ce livre, c'est justement de faire en sorte que la personne puisse être en mesure de, non pas de faire un diagnostic, on n'est pas là pour ça. Qui fait le diagnostic, c'est le médecin. On est là pour évaluer, donner des éléments pour vous dire, si t'as ça, plus ça, t'appelles le 15. Si t'as ça plus ça plus ça, c'est peut-être quelque chose posant problème, mais c'est pas urgent. Donc on ne fait pas de diagnostic, on évalue la gravité. D'ailleurs, avec ce bouquin, vous ne pourrez pas faire votre diagnostic. Vous pourrez simplement savoir les éléments qui doivent vous alerter.
Alors moi, quand je l'ai lu, j'avais toutes les maladies. Hein.
Ah ben c'est normal.
Comme il y en a 450, pour vous assurer, je me suis retrouvé avec plein de maladies.
Ah hein. Oh, mais c'est un grand angoissé.
Un grand angoissé.
Mais alors, l'angoisse en fait partie.
Voilà, alors on verra la différence entre l'angoisse et l'anxiété, d'ailleurs, tout à l'heure. Non, après la publicité, le docteur Loïc Etienne, parce que si vous le lancez, il est reparti. Loïc Etienne est avec nous, qui publie justement Urgence Santé. Est-ce grave, que faire, qui a appelé votre éditeur. C'est First et vous êtes notre invité jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, on parle des urgences avec mon invité, le docteur Loïc Etienne, mais il n'y a pas d'urgence, il n'y a que des gens pressés, docteur.
Ça, c'est une grande phrase des urgentistes, exactement. On dit ça. Mais vous savez, avec le temps, moi, j'ai appris ça au début, quand j'ai commencé, je pensais qu'il fallait aller très vite, et qu'il fallait que tout était une urgence. Et puis, avec le temps, on finit par dire, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? On s'assoit, surtout quand on vieillit, alors on s'assoit et on dit, alors, il ne respire pas ou mal. Expliquez. Non, j'exagère.
Les gens viennent vous voir quand ils respirent mal.
Ouais. Ouais. Et alors, il faut apprendre justement à avoir une certaine distance, parce que soi-même, en fait, plus on est pressé et plus on va vite, moins on écoute le patient et plus on risque de passer à côté du vrai problème. Parce que, en fait, le vrai problème, il se trouve dans la parole du patient. Et c'est ça qui est passionnant. C'est que le patient connaît à peu près 60% ou 70% de son problème. Le médecin explore les 30% restants. Et s'il n'écoute pas ce que dit le patient, il passe à côté.
Mais je vais peut-être vous poser une question bête. Mais est-ce que c'est au médecin urgentiste de faire un diagnostic?
Non. Bonne question. Très bonne question.
Donc, on n'est pas là. Voilà, vous n'êtes pas là pour faire un diagnostic, non. Finalement. Vous êtes là pour évaluer si c'est urgent ou pas.
Exactement. On est là pour prendre une décision. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est un urgentiste? C'est un médecin qui vient voir des gens qu'il ne connaît pas et qu'il ne reverra pas. C'est ça.
A priori, oui.
A priori.
Sauf que maintenant, souvent.
C'est exceptionnel. Hein,
souvent, les urgences, c'est devenu aussi le médecin généraliste de beaucoup de gens. Hein.
C'est vrai. Mais d'une manière générale, on ne revoit pas les gens. Et donc, le fait de voir des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra pas, ça enferme la relation dans un temps qui est un temps limité. Dans lequel, vous, quand vous arrivez, vous êtes tout nu, mais vous ne pouvez vous prévaloir d'aucune légitimité. Vous devez à chaque patient conquérir votre patient, lui montrer que vous allez lui apporter quelque chose et que vous êtes là pour l'écouter, que vous êtes là pour lui apporter une solution. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui va se passer à la fin de votre consultation, dans lequel vous avez quoi? Vous avez vos mains, vos oreilles, etc., un stéthoscope, électrocardiogramme, machin, etc. Bon, ok. Une fois que vous avez fait ça, vous devez éventuellement envisager des hypothèses diagnostiques qui sont vraies ou pas vraies, parce que qui fait le diagnostic, c'est les examens complémentaires. Mais vous devez par contre ne pas vous tromper sur la décision. Et qu'est-ce que c'est que la décision? Je le laisse à domicile et il mange du Doliprane ou il prend mon ordonnance. Deuxièmement, je l'envoie à l'hôpital. Et si je l'envoie à l'hôpital, c'est soit par une ambulance, soit par le 15. Ou troisième possibilité, vous avez l'hôpital qui n'est pas loin, vous pouvez y aller, ou alors vous allez chez le pharmacien. Donc finalement, le nombre de décisions, il est très limité. Mais on ne doit pas se tromper sur la décision. Et c'est ça la grosse difficulté, et c'est ce que j'ai mis dans ce bouquin, c'est essayer d'apporter un niveau de gravité qui ne fait pas un diagnostic, mais qui permet de savoir si, a priori, c'est grave ou pas grave, toujours dans la même philosophie, rassurer quand c'est possible, alerter quand c'est nécessaire.
Il y a 40 ans d'expérience aussi, hein, donc effectivement...
Hélas.
L'histoire du cafard dans les oreilles, ça ne s'invente pas. Alors, il y a 5 niveaux d'urgence, plus 2.
Alors ça, c'est dans la classification commune de médecine d'urgence.
Oui.
Il y en a 2 avec la psychiatrie. Ouais. Voilà. Alors nous, je dis nous parce qu'en fait, dans Medvir, qui est donc un système d'intelligence artificielle, on a simplement 5 niveaux parce que la psychiatrie fait partie des problématiques des 5 niveaux. Donc on n'a pas mis les 2 supplémentaires. Ça veut dire qu'en fait... En gros, le premier niveau, c'est bon, enfin, le premier niveau élevé, c'est j'appelle le 15, voilà, j'appelle le 15, le 18, le 112, faut venir tout de suite parce qu'il y a un risque potentiellement grave. Alors qu'est-ce que c'est? Ça peut être un infarctus, un accident vasculaire cérébral, ça peut être un trouble du rythme cardiaque, etc. Vous savez, ça représente 3% des appels. 3% seulement. 3. C'est pas énorme. On sait que, juste une parenthèse, quand vous avez 3% des appels qui sont des urgences, il y a 3% de ces 3% qui sont des urgences vitales mortelles.
Attendez, vous êtes en train de dire que sur l'ensemble des appels qu'il y a, donc ça c'est pour la régulation, il y a que 3% qui concernent une réelle urgence.
Une réelle, véritable urgence entraînant la nécessité d'envoyer une équipe du SAMU ou du SMUR avec un médecin à l'intérieur et transporter la personne en urgence. Il n'y a que 3%. Ah, bon, je vous dis 3%, c'est peut-être 4%, 5%, mais c'est d'environ 3%. Ça, c'est les urgences de niveau 5, c'est le plus important. Quand vous avez le niveau 4, qu'est-ce que c'est? Le niveau 4, ce sont les problèmes qui sont inquiétants. Et qui peuvent passer en niveau 5, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui a eu par exemple qui a une arythmie, je peux pas parler médecin, mais qui a le cœur irrégulier, disons, et puis vous dites c'est un problème, et puis vous vous rendez compte que il a cette arythmie, et puis brusquement il a la bouche de travers, etc. Ça veut dire qu'il a envoyé un caillot dans le cerveau. On est passé du niveau 4 au niveau 5, ok? Donc, le niveau 4, c'est quelque chose qui est potentiellement, qui est sérieux, qui peut être grave, mais qui peut ne pas l'être, mais qui nécessite véritablement qu'il y ait une consultation urgente par un médecin.
Donc, le niveau 4 va aux urgences.
Le niveau 4 va aux urgences.
D'accord.
Pas avec le SAMU, mais...
Il faut quand même, ça nécessite une consultation en urgence.
En urgence.
D'accord.
Le niveau 3, non, le niveau 3, c'est le plus difficile. Donc je vais le garder pour la fin. Je vais passer directement au niveau 1, c'est-à-dire en bas. Le niveau 1, c'est, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, vous ne risquez pas votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de diagnostic, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, que vous n'ayez pas un cancer du... que ces signes puissent être un cancer du poumon. Mais on n'est pas dans l'urgence. On sort du domaine de l'urgence. Mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nécessité de voir un médecin immédiatement, tout de suite. Vous pouvez rester chez vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas que vous voyiez un médecin. Il faudra peut-être que vous voyiez un médecin. Ça n'exclut pas le fait de voir un médecin. Ok.
C'est juste que ça exclut l'urgence.
C'est juste, ça évalue simplement l'urgence.
Même si vous avez une quinte de toux, vous êtes pris d'une quinte de toux depuis le début de la soirée.
Alors ça dépend. Si vous avez avalé un objet, c'est émulsion.
Non, mais je parlais du cancer du poumon. Voilà.
Ah ben, le cancer du poumon, vous allez avoir une quinte de toux. Alors. Prenons notre cancer du poumon.
Ouais.
Je reste au mon niveau 1 parce qu'il faut que vous me perdiez pas. Parce que si, vous
parlé niveau 1. Donc restez sur le niveau 1.
Alors je reste sur le niveau 1 et puis je vous répondrai après sur la quinte de toux. Donc mon niveau 1, je reste tranquille. Et le niveau 2, qu'est-ce que c'est? Ça peut être problématique, mais ça nécessite pas de voir un médecin tout de suite. Vous pouvez voir un médecin demain ou après-demain. Mais il faudra voir un médecin quand même parce que ça pourrait passer au niveau 3 ou passer au niveau 2. Mais... Il n'y a pas d'urgence. Puis vous avez au milieu, le niveau 3, c'est celui qui est entre le niveau 2 et le niveau 4. Donc, vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'un état qui peut être stable, ce qu'on appelle nous un état stable, peut se compliquer et passer en niveau 4, voire en niveau 5, ou au contraire s'améliorer et donc passer en niveau 2. C'est pour ça que dans le bouquin que j'ai fait, vous avez une flèche qui monte en haut, une flèche qui descend. Et tout en haut, ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Et quand vous êtes à un niveau 3, vous êtes au niveau 3, c'est bien, parce que vous n'avez pas de signe inquiétant, donc vous savez que vous êtes au niveau 3. Mais il ne faut pas oublier que ça peut passer en 4, donc il faut surveiller. Et ça peut s'améliorer, ce qui est toujours en général le cas, et à ce moment-là, ça passera en niveau 2. Ça vous permet toujours de vous dire où est-ce que je suis et où est-ce que je vais aller. Alors maintenant, je vais répondre à votre cancer du poumon. C'est que votre cancer du poumon, c'est un problème qui est un problème grave, bien sûr, dans lequel vous risquez votre peau, pas immédiatement, mais dans lequel vous avez un problème sérieux. Si le cancer du poumon se manifeste simplement par une toux et qu'il n'y a pas de problème parce que vous avez une toux, vous allez tousser, vous allez voir le médecin, le cancérologue, etc. Puis on fera le traitement. Il n'y a pas d'urgence en tant que tel. Par contre, si cette toux entraîne un crachat sanglant et des vomissements et une toux sanglante, alors là, il faut appeler le 15 tout de suite. Parce que ça veut dire qu'il y a un risque. Et vous voyez, on sort de l'échelle. On est rentré dans l'échelle des urgences, alors que la cause, on la connaît pas. Et il nous est arrivé souvent, en tant qu'urgentiste, de voir des patients qui avaient un authentique problème sérieux et qui était en fait grave. Je peux vous raconter des histoires comme ça. Vous voulez que je vous raconte l'histoire du diabétique ?
Non. 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 Je préfère avec des animaux. c'est pas une histoire avec des gars.
Non, c'est pas une histoire avec des cafards. Non, c'est une histoire avec c'est une histoire triste.
Non, j'ai pas d'histoire triste.
Bon,
parce que les urgences. Non, mais vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle des urgences, en général, dans la presse, aujourd'hui, c'est qu'on parle toujours des morts. On dit oui, mais tu comprends, il était mort sur son brancard ou. Et c'est ça qu'on évoque. On évoque aujourd'hui la faillite des urgences, les gens qui mourraient aux urgences.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est ça.
Mais c'est vrai, mais parce que ça, c'est un défaut de régulation. Ça veut dire qu'une personne qui meurt dans son brancard aux urgences, ça veut dire qu'on ne s'est pas occupé d'elle dans des délais qui sont des délais normaux. On aurait dû s'en occuper tout de suite. Pourquoi ? Parce que on n'a pas évalué la gravité de son état. On l'a laissé dans le couloir parce qu'on n'avait pas le moyen de s'en occuper. Et on n'a pas eu le moyen de s'en occuper parce qu'on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Et parce qu'on n'a pas eu les outils pour s'en occuper. Donc c'est pour ça que...
Pourtant, normalement, quand vous arrivez aux urgences, vous êtes accueilli par une infirmière de régulation, normalement, qui est chargée de faire le dispatching.
Bah, écoutez,
ou un infirmier, en fait, quelqu'un qui est chargé justement de vous orienter en fonction du degré d'urgence.
La dernière expérience que j'ai eue aux urgences il y a de ça quelques temps, où j'ai emmené quelqu'un, c'était une personne que j'ai vue sur un siège, un homme d'une cinquantaine d'années, puis il était tout pâle, il était un petit peu en sueur. Et il se tortillait sur son siège et je lui dis mais vous êtes là depuis longtemps? Il me dit ah bah oui, ça fait une heure et demie. Et je lui pose une question, je lui dis, mais vous avez déjà fait des coliques néphrétiques ? Il me dit, bah oui, c'est la troisième. Et je lui dis, mais vous l'avez dit à l'infirmière ? Elle m'a dit, mettez-vous là, on va s'occuper de vous. Le pauvre type, il est resté une heure et demie à se tortiller sur sa chaise, il n'a pas osé lever le doigt en disant, j'ai des coliques néphrétiques, il suffisait de lui poser deux questions, et on lui aurait dit, alors c'est moi qui vais obligé d'aller voir l'infirmière, lui dire, donnez-lui quelque chose de façon à soulager sa douleur, c'est une colique néphrétique. Ah bon ?
D'accord. Mais c'est une faillite quand même. Il y a quelque chose qui fonctionne pas quand même.
C'est un problème. C'est un problème. Nous manquons de médecins, nous manquons d'infirmières. Nous sommes dans une faillite sanitaire absolument épouvantable qui va s'aggraver. On va avoir 25% de médecins en moins à horizon 5 ans. C'est un problème structurel et donc justement participer. Et c'est là où je voudrais peut-être en venir. C'est que on ne va pas, pour faire un médecin, il faut 12 ans, 10-12 ans. On va mettre 10 ans ou 12 ans à faire un nouveau médecin. Il faut que les gens se prennent en charge, non pas en devenant médecin, mais en ayant des outils qui leur permettent justement de ne pas aller aux urgences à tort et à travers, où ils vont aggraver l'encombrement, et par contre, au contraire, d'être alertés quand ils ont un problème, de façon à ce qu'ils ne deviennent pas des handicapés, moteurs, ou etc., parce qu'on n'aura pas fait les choses.
Aujourd'hui, que les gens n'ont plus de médecins traitants, les urgences sont devenues la consultation, la médecine de ville.
Oui.
Dans les grandes villes. Donc dans les grandes villes, oui. C'est aussi pour ça que les urgences sont encombrées. C'est-à-dire que si les gens avaient plus facilement accès à des médecins généralistes, peut-être qu'ils iraient moins aux urgences.
C'est multifactoriel. C'est multifactoriel. Vous avez le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques, donc forcément l'augmentation des décompensations. Vous avez le manque de médecins. Vous avez le fait que les maternités, on les concentre, que vous avez de moins en moins d'ouverture dans les urgences parce qu'il y a de moins en moins d'infirmières et de moins en moins de médecins. Et puis vous avez un consumérisme médical important. J'ai un de mes copains urgentistes qui me dit, j'ai un type qui est venu, il est venu me voir parce qu'il y avait une écharde, il était 3h du matin. Et pourquoi vous venez me voir à 3h du matin pour une écharde ? Demande mon copain. Et le type répond, c'est parce qu'il y avait moins de queue à 3h. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait...
Oui, alors j'ai vu dans votre livre que ça pouvait être un motif d'urgence, l'écharde.
Ah, ça dépend où elle est. Ça dépend comment.
D'accord. Bon, alors on va voir ça tout à l'heure après.
Ça, c'est les cas pratiques.
Oui, mais c'est pratique. Mais mine de rien, une écharde, c'est quand même un.
Ah si c'est dans l'œil, attendez, c'est.
Ah, oui.
Voilà.
Oui, ça c'est sûr.
Puis si c'est une grande écharde comme ça.
Ça, c'est pas une écharde, c'est un clou.
C'est un clou.
Le docteur Loïc Etienne est notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Bon, avec le docteur Loïc Etienne, on parle des urgences avec lui. Ce matin, je prends un cas pratique, doc. On est dans la rue. On tombe parce qu'on prend, on voit pas le petit muret qui est devant nous. On tombe, on se rattrape sur les paumes de la main. Donc, on tombe comme une masse. On se relève. Bon, on court pour rattraper son bus. On est dans le bus, mais une demi-heure après, on a mal partout. Surtout à l'épaule. Est-ce que ça, c'est un motif de consultation aux urgences ou pas?
Alors, le fait, je reprends votre histoire, il y a eu une chute. Déjà, il faut déjà essayer de savoir pourquoi on est tombé.
Parce qu'on n'a pas vu le muret.
Alors, on n'a pas vu le muret. Donc, c'est une chute accidentelle. On est tombé, très bien. Une fois qu'on est tombé, est-ce qu'on a perdu connaissance?
Non.
Très bien.
C'est juste rattrapé sur les mains.
On s'est rattrapé sur les mains. Voilà. Très bien. Une fois qu'on est tombé sur les mains, évidemment, on a mal quelque part. Où a-t-on mal? Est-ce qu'on a mal à l'épaule? Est-ce qu'on a mal au bras? Est-ce qu'on a mal à ceci?
Au pot, épaule, bras.
Épaule, etc. Ouais. Bon, à partir de ce moment-là, excusez-moi, à partir de ce moment-là, il faut déjà, est-ce qu'il y a eu ou non un malaise? Est-ce qu'il y a eu ou non des sueurs froides? Est-ce qu'il y a eu ou non des sueurs? Si vous avez un malaise, des sueurs et froides et que vous êtes pâle, etc., vous avez ce qu'on appelle un malaise vagal. S'il y a malaise vagal, ça veut dire qu'il y a vraisemblablement un traumatisme violent de l'épaule. Et à ce moment-là, donc, ça veut donc dire que c'est pas un banal truc, ça veut dire que vraisemblablement, il y a une fracture ou quelque chose d'assez sérieux, donc il faut aller aux urgences. Et donc, c'est pas parce que vous êtes tombé, c'est pas parce que vous avez une douleur à l'épaule, c'est parce que vous avez un malaise et vous êtes en sueur et que vous êtes pâle. Et que vous avez un petit peu soif. C'est les signes à côté, qui détermine la gravité. Et c'est pas ça qui va dire qu'il y a une fracture de l'épaule. Ce qui fera le diagnostic de fracture de l'épaule, c'est la radio. Mais vous pouvez vous dire, à cause de ces signes qu'il y a eu à côté, eh ben, il faut aller aux urgences. Donc vous voyez, c'est toujours les signes qui sont les signes d'accompagnement qui sont des signes importants. Et puis vous avez la caractérisation du problème. Si on prend par exemple un mal de tête. Vous prenez un mal de tête. Mal de tête, c'est banal.
C'est super fréquent. Hein.
Ouais, c'est super fréquent. Bon, si la douleur est comme, je vous lis, je ne fais que vous lire, je m'en souviendrai théoriquement. Ouais. Voilà, mais enfin. Si vous avez une douleur comme une explosion dans la tête, si vous avez une perte de connaissance, un trouble de la conscience, une somnolence, si vous avez une paralysie d'un membre, si vous avez une perte de force dans un membre, tout ça c'est du « ou », hein, c'est pas du « et ». La bouche de travers, si vous avez une douleur très forte ou intolérable, si vous avez un trouble de la parole, de la mémoire ou de la marche ou des gestes, si vous avez une douleur brutale dans une certaine zone de la tête, si vous avez une baisse brutale de la vision et de l'audition ou un mal de tête précédé ou suivi de convulsions, ça c'est le 15. C'est le 15, pourquoi? Parce que a priori ça pourrait être un AVC. Surtout si vous avez des facteurs aggravants qui sont une hypertension artérielle, un traitement anticoagulant et si vous avez une grossesse en cours. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui vous permettent de vous dire que si vous avez ça, il faut vraiment appeler le 15. Par contre, si vous avez une fièvre élevée avec des courbatures, une fatigue, une toux, ou alors une douleur aggravée par le stress, ou une douleur simplement en casque, et que vous avez pris, ou que vous avez pris de l'alcool, bon ben ça va, c'est pas une urgence. C'est pas une urgence, jusqu'à preuve du contraire. Ça ne veut donc pas dire qu'il ne faudra pas voir de médecin, mais ça veut dire que votre problème est en niveau 2, et que ça ne nécessite absolument pas d'aller aux urgences. De même si vous avez le nez qui coule, ou le nez bouché, ou mal à la gorge, ou une douleur qui a disparu totalement. Donc, vous voyez, ce qui compte, hein, c'est à la fois la caractérisation du problème, et à la fois les signes qui sont autour. Et c'est l'association des caractéristiques et des signes qui entourent, qui font la gravité. Et ça ne donne pas le diagnostic, parce que le diagnostic, c'est le médecin qui le fait. Alors, ce bouquin ne sert pas à faire du diagnostic, sert simplement à évaluer une gravité.
Quelle différence vous faites entre un malaise et une perte de connaissance?
Bonne question, docteur. En fait, un malaise, le mot malaise en lui-même porte des ambiguïtés. Est-ce que ça veut dire qu'on a été un petit peu vertigineux, etc., qu'on ne se sent pas bien? Est-ce que ça veut dire qu'on a eu un malaise, mais qu'on est tombé dans les pommes, c'est-à-dire qu'il y a eu perte de connaissance, ou est-ce que ça veut dire qu'on est mal à l'aise? Parce que le mot malaise,
c'est malaise.
Cette ambiguïté.
Dans le langage des oiseaux, c'est voilà.
C'est un malaise, malaise. Vous voyez, j'ai un peu de malaise dans le ventre. Vous passez un examen, et ben vous êtes mal à l'aise. Voilà. Ben, ça veut pas dire qu'il faut appeler. Ça veut dire que vous avez un malaise. Donc en fait, les mots en eux-mêmes sont porteurs d'ambiguïté. Et ce qui est très important, c'est de comprendre ce que ce malaise veut dire. Et là encore, est-ce qu'il survient debout, assis? Est-ce qu'il entraîne une perte de connaissance? Et la perte de connaissance, c'est réellement la personne qui tombe par terre et qui, on la secoue et elle bouge plus. Là, il y a eu perte de connaissance. Un exemple qu'il faut connaître, qui est très important à connaître, c'est l'enfant. L'enfant, il tombe. Très bien, ils tombent, les enfants ils tombent. S'ils ne pleurent pas tout de suite, alors c'est qu'il y a vraisemblablement eu une perte de connaissance. Donc un enfant qui tombe et qui hurle, ça va. Un enfant qui tombe et qui se cogne la tête et qui met 10 secondes ou 15 secondes à pleurer, il y a eu perte de connaissance. Et donc ça veut dire que ça, il faut qu'il aille à l'hôpital.
Et vous expliquez que finalement une perte de connaissance peut passer complètement inaperçue pour celui qui l'a subi.
Totalement, c'est ce qu'il y a avec les épilepsies, ouais. Où vous avez la personne qui se retrouve avec le slip un petit peu mouillé, qui a mal à la langue, et puis qui dit « mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» En fait, elle a eu une perte de connaissance, elle a eu une épilepsie.
Voilà. Une perte de connaissance peut être brutale, c'est ce qu'on appelle la perte de connaissance à
l'emporte-pièce.
Voilà. Exactement. Ça, c'est du langage d'urgentiste.
Oui, c'est le langage de médecin. Ouais.
Quels sont les motifs de consultation les plus fréquents aux urgences ?
Les motifs, alors, les urgences à domicile ou les urgences hospitalières.
Pourquoi c'est pas les mêmes ?
Non, c'est pas pareil. Parce que arrivent aux urgences hospitalières à la fois les urgences ressenties parce qu'il n'y a pas de médecin, qui peuvent être des urgences ou pas des urgences. Alors que quand vous appelez le médecin, c'est pas du tout la même démarche parce que le médecin qui se déplace, en général, c'est que vous avez du mal à vous déplacer vous. Et si vous avez du mal à vous déplacer vous, les problèmes ne sont pas exactement les mêmes. Je vous donne les stats que nous avons eues, nous, en particulier sur les... on avait fait ça en 2012 sur un site qui s'appelait eDoctor, où on a eu 850, 1 million de connexions sur notre système expert. Le number one, c'est la douleur abdominale. Douleur abdominale. C'est le numéro 1.
Mais ça veut dire toujours. Douleur abdominale, c'est mal au ventre.
Mal au ventre.
Voilà,
mais mal au ventre, ça peut être... Vous savez, le ventre, c'est 9 zones.
Mais oui.
Alors ça peut être en haut, en bas, au milieu.
Alors vous commencez par ça, par le ventre.
Le ventre. Et c'est le problème en téléconsultation, c'est que les médecins en téléconsultation souvent récusent les maux de ventre parce qu'ils disent « Ah, je ne peux pas l'examiner, je ne peux pas lui appuyer sur le ventre, donc je ne le verrai pas. » Or, vous pouvez tout à fait envisager, examiner, j'allais dire virtuellement, un mal de ventre, simplement en posant les bonnes questions. Quand ça a commencé, c'est à droite, à gauche, au milieu, ça augmente, ça diminue, c'est ceci, c'est cela, c'est dur, c'est pas dur, etc.
Donc le ventre, vous l'avez divisé en 5 zones. Hein.
Mais c'est parce
A,
que
B,
je...
C, D, E, oui.
Non, 9.
9 zones ?
9 zones.
Ah ouais ?
Il y a 9 zones. Bah oui, le nombril, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 9.
Et donc les questions que vous posez en téléconsultation ?
Alors, les questions en téléconsultation, c'est toujours de savoir qu'est-ce qui vous gêne le plus ? Parce qu'en général, les gens, enfin, nous tous, nous avons, on vient avec, bah, je vais vous voir parce que j'ai vomi, et puis j'ai mangé je sais pas quoi, puis j'ai mal au ventre, puis j'ai de la diarrhée, et puis je tousse, et puis comme ma grand-mère a fait une occlusion, et que je ne fais plus de paix.
Je n'ai plus de gaz.
Je n'ai plus de gaz. Je pense.
Ça vous fait rire, ça ?
Non, parce que les gaz, c'est important.
Parce que ça revient beaucoup dans les diagnostics que vous faites, et dit que finalement, ouais.
Oui,
ça
oui,
peut
oui.
alerter le fait de ne plus avoir de gaz.
L'un des signes, ce qu'on appelle l'arrêt des matières et des gaz, nous les médecins, c'est un signe d'occlusion. Occlusion intestinale. L'occlusion intestinale, ça peut être une sub-occlusion, c'est-à-dire quelque chose de pas très urgent, mais ça peut être une occlusion. Une occlusion, ça peut être très grave. Hein, ça peut être donc une occlusion, c'est au moins un niveau 4. C'est pas un niveau 5, mais c'est un niveau 4. Donc un arrêt des gaz qui s'accompagne de douleurs, de vomissements, etc. Sur une personne qui a été en particulier opérée du ventre, il faut pas se poser de questions. C'est les urgences.
Urgence. Alors, deuxième motif de consultation le plus fréquent ?
Alors, la fièvre, bien entendu. La fièvre, surtout chez les enfants, parce que la fièvre inquiète beaucoup. À cause de la peur de la méningite, à cause de tout ça. Et la fièvre, c'est le deuxième motif. Et des signes qui sont qui viennent après. Enfin, je n'ai pas la hiérarchie en tête, hein, bien entendu. Hein. Il faudrait que je voie les stats devant le nez. Mais vous avez ensuite les douleurs, les douleurs d'une manière générale. Et vous avez ensuite souvent tous les problèmes de traumato, les douleurs surtout de la cheville, la cheville d'abord, les mains et les poignets. Et puis vous avez des kyriels de petits signes, hein, qui sont les saignements, les écoulements, les boules que vous avez qui peuvent sortir. Les problèmes
alors, haleine, oui, donc.
La mauvaise haleine, la mauvaise haleine.
Non, haleine.
Allez, pardon.
Après, je ne sais pas si la mauvaise haleine est un motif de consultation aux urgences.
Oui, je vais vous raconter une histoire d'ailleurs. Allez, je vous la raconte quand même.
Celle-là ?
Oui, mais je vous la raconte.
Une petite ?
Une petite, toute petite.
Allez, vas-y. Ouais.
Personne que je vois, un monsieur, j'arrive, je rentre dans la pièce, ça sentait l'acétone. L'acétone comme le vernis à ongles. Je vois la personne, je lui dis, vous êtes diabétique ? Il me dit, oui. Je lui dis, vous avez fait votre insuline. Il me dit, je ne veux plus faire mon insuline. Je lui dis, si vous ne le faites pas, je ne l'ai pas examiné, hein. Si vous ne le faites pas, je vous assure que vous allez faire un coma, un coma acido-cétosique cette nuit. Il faut absolument que vous alliez à l'hôpital. Il a refusé, il a signé sa pancarte, enfin, il a refusé que je l'hospitalise. Et j'étais appelé le lendemain pour cet homme qui était mort.
Oui.
Hélas. Donc vous voyez la mauvaise haleine.
Et là où vous voyez que Loïc Etienne est fort, c'est qu'il nous a recyclé l'histoire que j'ai refusée tout à l'heure, il nous la recycle là. Ça, c'est du travail, ça ne se fait pas, Doc. Parce que je crois que je vais me laisser avoir. Je suis sûr que c'est celle-là que vous vouliez me servir tout à l'heure.
C'était celle-là, absolument.
En fait, vous connaissez deux histoires. Il y a l'histoire du diabétique et l'histoire du cafard dans l'oreille.
Voilà,
c'est tout ce qui vous reste de 40 ans
de 40 ans de médecine,
d'urgence.
Ouais, d'urgence. Non, mais ça a été passionnant. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de faire un métier fantastique. Et le fait de l'avoir fait en plus en virtualité sur Internet, ça m'a donné deux pieds. Vous voyez, le pied dans le monde réel et le pied dans le monde virtuel. Et ça, c'est passionnant. Pourquoi ? Parce que ça m'a obligé à revenir à la parole du patient. Et j'en reviens, vous voyez, au bout de 40 ans de médecine, j'ai appris deux choses. C'est que la médecine, d'abord, c'est de la lenteur et c'est de l'écoute. Lenteur et écoute. Ce n'est que ça de la médecine. Si on ne fait pas ça, je pense qu'on fait du mauvais travail.
Le docteur Loïc Etienne, qu'on pourrait écouter pendant des heures, hein, doc. Bon, qu'on va lire d'abord, hein. Il est super beau votre livre, ils ont fait un gros boulot. Hein. Urgence santé, est-ce grave, que faire, qui appeler chez Fert. Il est super beau, on dirait un manuel de médecine.
Oui, non mais il est lisible en plus. Et puis j'ai raconté
de l'anatomie. Il y a 500 pages, je vous le dis tout de suite, hein, il y a 500 pages.
Et puis il y a l'anatomie aussi. Alors, l'anatomie, la physiologie.
Alors au début, vous nous calez 4 chapitres d'anatomie, alors là, ouais.
Eh bien moi je trouve que c'est amusant, c'est intéressant. Enfin moi je trouve, ça m'a amusé de l'écrire.
C'est bien.
Ça
vous ressemble. Vous réécouterez l'émission podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci docteur Loïc Etienne.
Merci à vous.
Et passez une très belle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.